On estime entre 150 et 350 millions le nombre d'êtres humains sur la planète appartenant à des cultures premières. Ils sont Innus, Cree, Yanomami, Shuar, Bushmen et Maasai, Udej et Sahraoui, pour ne nommer que ceux-là. Ils ont souvent été appelés primitifs et sauvages par des peuples arrogants qui ne comprenaient pas la richesse fabuleuse de leur union avec la Terre. Ils sont des témoins vivants de l'extraordinaire diversité culturelle de la race humaine et de sa capacité à évoluer en symbiose avec le territoire. Aujourd'hui, on estime que la survie de ces cultures est davantage menacée que celle de la biodiversité terrestre. Le colonialisme économique et culturel, la poussée du progrès dévastateur détruit peu à peu le milieu de vie de ces peuples, bouleverse leur équilibre et dissout les traits distinctifs de leur culture. Le signe le plus frappant de cette hécatombe est la perte des langues. Parmi les milliers de langues actuellement parlées par les hommes et les femmes de la Terre, combien seront encore en usage dans 100 ans? L'anthropologue Wade Davis n'est pas très optimiste. Il y a en ce moment 6000 langues. Parmi ceux-ci, la moitié ne sont pas enseignées aux enfants. Ça veut dire qu'à moins que quelque chose ne change, ces langues sont déjà mortes. Vous savez comme moi que la langue, c'est l'âme d'un peuple. Comment peuvent survivre les traditions, les chants et les prières anciennes si aucune voix ne peut les faire vibrer? Il est grand temps de s'interroger sur le sort de ces cultures en dissolution et surtout de prendre action pour les soutenir. Loin d'être une cause isolée, le combat de ces peuples pour préserver leur mode de vie et leurs traditions est intimement lié à la lutte écologique que nous devons tous mener pour la protection de Gaïa et de ses habitants. En effet, la survie des peuples premiers est indissociable de celle de leur milieu de vie. Ça va de soi. Leur mode de vie, leur langue, leur imaginaire se sont tissés au contact des forêts, des rivières, du désert, de la mer et des montagnes. Ils sont issus de milliers d'années d'une collaboration étroite avec la Terre, d'une écoute attentive de ses rites et de ses ressources secrètes. L'aisance avec laquelle ces peuples se meuvent dans leur environnement et réussissent à se nourrir et à subvenir à leurs besoins dans des régions qui semblent sauvages et impropres à l'humain est réellement fascinante. Leur savoir immense de la nature qui les accueille a d'ailleurs été exploité sans vergogne par des compagnies pharmaceutiques qui s'emparent des connaissances sans rien donner en retour. Il n'est pas étonnant de constater que les régions où vivent la plupart de ces peuples sont parmi les dernières étendues sauvages de la planète. Ce sont des territoires bien souvent riches en ressources importantes et convoitées. Pétrole dans le Grand Nord canadien, le bois dans les forêts, l'uranium, métaux précieux et le diamant. La forêt amazonienne en est l'exemple le plus frappant. On y trouve encore une soixantaine de peuples n'ayant eu presque aucun contact avec notre triste civilisation. Mais pour combien de temps encore? Nous savons que ce poumon de la planète rétrécit à une vitesse cauchemardesque, laissant place à la désertification et à l'urbanisation sauvage. La grande multitude de peuples premiers qui y vivent, les Shuar, les Maka, Awa, les Yanonami et des dizaines d'autres sont broyés au même rythme que la forêt, déracinés comme les grands arbres qui abritent leur demeure. Par contre, bien que possédant des moyens limités face aux corporations et autres monstres sans âme, ils luttent ardemment pour la protection de leurs terres ancestrales. Vivant dans et avec ces forêts, ils en sont également les plus ardents et meilleurs défenseurs, appuyant cela par plusieurs organismes, comme Survival et Cultural Survival, par exemple. En portant leur cause devant les tribunaux et en demandant la protection de leurs terres, certains de ces peuples permettent d'assurer la conservation de larges parties des forêts d'Amazonie. De nombreuses causes, comme celle des Awa du Brésil, opposent des promoteurs terriens aux premiers habitants de ces territoires. La reconnaissance devant les tribunaux des droits de ces peuples sur leurs territoires ancestraux est un premier pas vers la survie culturelle et écologique. Au Québec, la situation n'est pas si différente, avec les Anishinaabe, qui luttent pour que cesse la destruction des forêts boréales du parc de la Vérendrye. On pourrait faire défiler pendant longtemps des causes semblables partout à travers le monde. Alors que la destruction de la planète est un fait souvent abstrait pour les habitants des villes, elle est une réalité plus concrète pour tous ces hommes et ces femmes qui subissent l'évanouissement de leur raison de vivre, la terre-mère qui les nourrit et les protège. En devenant sensibles à la situation de ces peuples et en les appuyant dans leur combat, nous solidifions notre appartenance à la grande famille humaine tout en soutenant la protection des centres névralgiques de notre planète bleue. En devenant sensibles à la situation de ces peuples et en les appuyant dans leur combat, nous solidifions notre appartenance à la grande famille humaine tout en soutenant la protection des centres névralgiques de notre planète bleue. Il serait bien prétentieux de penser sauver ces peuples en bons super-héros colonialistes. En fait, c'est plutôt ces cultures anciennes qui peuvent nous ouvrir des portes essentielles à notre survie. Non seulement le destin de ces peuples est-il indissociable des territoires sauvages qu'ils habitent, qu'ils sont également porteurs d'enseignements précieux pour traverser la crise que nous vivons. Le Cercle des Anciens, réuni en 1994 autour du Dalai Lama, nous fournit une ouverture vivifiante sur ces possibilités. Ce cercle était formé par des hommes médecines de partout dans le monde venus pour échanger leurs rituels et leurs prières afin d'aider la guérison de la Terre. Par la mise en commun de leurs traditions et de leurs croyances, ces sages ont vécu la fraternité profonde qui unit la diversité de leur culture. De ce dialogue a émergé un sentiment commun de responsabilité face aux beautés qui nous entourent. Le cercle des anciens confirme ce que nous savions déjà. Une des caractéristiques communes à toutes les cultures dites indigènes ou premières, c'est de cultiver un sentiment profond d'interdépendance avec leur milieu de vie. Des milliers d'années avant l'invention du mot « écologie », ces peuples ont manifesté par leur manière de vivre, leur récit et leur art, leur appartenance à la grande famille des vivants. Les chants, les danses, les rites et les cérémonies dans leur forme presque infinie composent une mosaïque qui célèbre le vivant. Bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans le mythe du bon sauvage et d'idéaliser ces peuples comme un but à atteindre. À moins de sentir un appel très particulier, nous ne pouvons aller vivre nus dans les bois pour fuir les erreurs de notre civilisation. Par contre, il me semble qu'en nous imprégnant des cultures premières, nous pouvons développer un élément crucial qui manque souvent aux luttes écologiques, une spiritualité de la terre. En retrouvant le souffle sacré qui donne vie aux arbres, aux rochers, aux rivières, nous puisons au plus profond de nous-mêmes la force d'être gardiens et guérisseurs de notre mère. L'activisme écologique, s'il n'est pas nourri de l'intérieur par une conscience du caractère sacré de tout ce qui est, se dessèche rapidement en désillusions amères et en colère vaine. Luttons sans relâche, agissons avec toute notre fougue, mais nourrissons-nous toujours de la beauté sublime de la Terre. Beaucoup d'écologistes comme John Seed et Joanna Macy se sont inspirés des traditions anciennes pour insuffler à leurs actions une vision sacrée. Ils ont entre autres développé des rituels pour guérir et renforcer le lien avec la Terre. Ce faisant, ils ont puisé dans des traditions anciennes pour nourrir notre relation vivante avec toute vie. Cette convergence de la pensée scientifique, de l'écologie et de la sagesse des cultures ancestrales me semble contenir la clé nous permettant de briser le cycle autodestructeur dans lequel nous nous enfonçons sans merci. Peut-être qu'en écoutant davantage les voix anciennes de nos frères, nous pourrons enfin sentir dans la moelle de nos os notre union profonde avec toute la vie et entendre plus distinctement le cœur vibrant de la Terre-Mère. C'était un texte de Jean-David Morneau, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Philippe Laramée.